Socialement Vôtre, votre chronique du travail social dans l'Ain, proposée par l'ANCEIS. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur les ondes de Radio B pour une nouvelle émission de Socialement Vôtre. Nous parlerons de l'importance de s'attacher pour être heureux avec mon invité, Guillemette Lepelletier. Bonjour.
Bonjour Elina.
Je te laisse te présenter.
Alors, initialement éducatrice spécialisée, formatrice, chargée de projet de formation continue et co-responsable de filière Café Ruiz pour les chefs de service du secteur social et médico-social à l'ENSEIS.
Donc l'ENSEIS qui est l'école du social à Bourg-en-Bresse. Donc, au cœur de l'activité de tout travailleur social, que ce soit pour les métiers d'éducateur spécialisé, assistant de service social ou d'éducateur de jeunes enfants, il y a la relation d'aide.
Expression que l'on tient de Carl Rogers, qui date un peu, hein, c'est les années 80. On peut discuter le terme d'aide, on peut le remplacer par celui d'accompagnement, mais ce qu'on va garder là pour notre propos, c'est le mot relation surtout. C'est ce mot-là qui est au cœur de toutes nos interventions.
On est d'accord que la relation n'est pas spécifique au travail social. Des relations, on en a plein. Relations parentales, relations de couple, relations partenariales, relations professionnelles.
Effectivement, qu'elles soient éducatives, thérapeutiques, amicales, amoureuses, finalement, on va y retrouver toujours les mêmes éléments en jeu. Donc ce qu'on va vous partager dans cette émission est valable dans le travail social, mais aussi dans toutes vos relations. On en revient à la base, à nos fondations d'être humain, de mammifères humains d'ailleurs, pour être plus précis. Parmi les besoins fondamentaux nous permettant de grandir, il y a manger, boire, bouger, ok, nos besoins physiologiques, il y a aussi notre besoin d'attachement.
Rappelons que le petit humain est très vulnérable à la naissance, très dépendant. Si on ne s'occupe pas de lui, il ne survit pas.
On est fondamentalement des êtres de lien et l'attachement dure toute la vie. Très étayé théoriquement par Bowlby, qui était un médecin psychiatre et psychanalyste, par Mary Ainsworth, je souligne le prénom parce que c'est une femme, psychologue du développement, et puis bien d'autres après eux, hein, il ne fait aucun doute que la manière dont nos parents ou éducateurs ont répondu à notre besoin initial d'attachement va conditionner notre manière d'être en relation tout au long de notre vie. La bonne nouvelle, c'est que quand ça a mal commencé, comme ça peut être le cas pour les nombreux jeunes accompagnés dans le cadre de la protection de l'enfance par exemple, c'est que ça se répare. Que des expériences relationnelles correctrices peuvent permettre à chacun de retrouver son équilibre, tant en eux-mêmes, confiance et estime de soi, qu'avec les autres.
Concrètement, ça se passe comment l'attachement ?
Grâce à l'expérience de Harlow, qui était un psychologue américain dans les années 60 avec les bébés singes, on a compris que s'attacher était tout aussi important que s'alimenter. Je ne sais pas si tu te souviens, Elina, c'était dans un laboratoire, il y avait un espace grille avec un simple biberon. Et puis, juste à côté, un mannequin bien poilu, bien cocon, etc. Et on a remarqué que dans cette expérience, les bébés singes, ils restaient sur le cocon, sur l'effet maman, sur le doudou. Et ils n'allaient s'alimenter auprès du biberon, vraiment que pour ça, à la dernière minute, quand ils avaient super, super faim. Donc en fait, on s'est rendu compte avec cette expérience que clairement, le bébé singe avait plus besoin de la protection, la sécurité, du doudou, que d'aller s'alimenter.
Mais on peut donc imaginer que c'est pareil pour les petits êtres humains.
C'était le but de l'expérience. On a eu d'autres après celle-ci, mais qui sont beaucoup plus controversées. On va pas passer des heures là-dessus. Si on ajoute à ces expériences-là toutes les mécanismes de compréhension du cerveau qui ont été éclaircis par la science aujourd'hui, en citant simplement toutes les études autour de l'hormone de l'attachement, l'ocytocine, hein, qui va réduire la production de cortisol, donc l'hormone du stress, qui va activer le système de récompense. Donc ça, c'est une première donnée qui éclaire notre propos. Il y a une deuxième donnée qui éclaire notre propos sur la manière dont sont enregistrées nos expériences et leurs conséquences sur nos connexions neuronales et sur la manière dont ça influe forcément sur nos comportements. Bref, tout ça montre à quel point nos réactions automatiques peuvent être empreintes de nos premières années de vie, même à l'âge adulte. Alors, le système d'attachement, il fait partie des systèmes motivationnels de base. Quand on se sent en sécurité, c'est le système d'exploration qui s'active. On peut acquérir de nouvelles compétences, on peut devenir autonome, on peut gagner en confiance. Quand on est insécurisé, en stress, on est carrément limité dans nos explorations. On a plus de mal à réguler nos émotions, à mentaliser correctement. Les deux sont reliés. C'est l'image de l'interrupteur, en fait. Pour que le système d'attachement ne soit pas en alerte, le petit qui a grandi, il a donc besoin d'un adulte présent, dispo, à l'écoute, sensible, sur lequel il peut s'appuyer pour comprendre et pour mettre les mots sur ses tempêtes émotionnelles, pour l'aider en fait à réguler ses émotions et à les mentaliser. Quelqu'un avec une réponse permanente, cohérente, stable. C'est là qu'on va parler de figure d'attachement. Alors petit, il s'agit de celui qui s'occupe de l'enfant, le parent généralement, mais ça peut être d'autres figures marquantes. Hein. En grandissant, un ami, une compagne, un thérapeute. Théoriquement, quel que soit l'âge, avoir entre 2 et 5 figures d'attachement est considéré comme source d'équilibre général.
D'ailleurs, on peut tous se poser la question. Aujourd'hui, en cas de stress important ou de mal-être, vers qui nous tournons-nous? Et quand nous étions enfants et adolescents, à qui accordions-nous notre confiance?
Clairement, vous aurez ainsi une image un peu plus claire de qui sont vos figures d'attachement, de votre passé et de votre présent. Alors, quand cette figure d'attachement, elle vous répond de manière sécurisante, vous êtes vous-même en sécurité et vous pouvez grandir sereinement. Mais quand ce n'est pas le cas, par indisponibilité, négligence, maltraitance, etc., quelles sont les conséquences? On va distinguer 4 types d'attachement. L'attachement sécure, qui va avoir accès à son cerveau rapidement, même sous big stress. Ses réactions, elles vont être complètement adaptées. Les 3 autres types vont être dites insécures. Et c'est là qu'on va retrouver la plupart des individus.
Donc les attachements insécures sont de 3 ordres avec des comportements bien différents. Il y a l'attachement anxieux, l'attachement évitant et l'attachement désorganisé.
Bien sûr, on peut être tout à fait sécure dans certains domaines de notre vie et pas dans d'autres, hein. En tant que coach dans mon autre activité, moi j'accompagne les femmes qui veulent faire de leur corps leur allié pour réaliser leurs projets. Je peux donner l'exemple d'une cliente qui est une excellente professionnelle. La relation, elle est super saine au niveau pro. Au niveau perso, par contre, l'attachement est insécure et source de beaucoup de souffrance dans son couple. Mais on peut aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, acquérir cette sécurité, hein. On va parler d'attachement sécure acquis. C'est l'image de la table de mixage présentée par Johanna Micou et Gwenaëlle Percio dans leur livre sur les liens d'attachement illustrés. À l'intérieur de nous, il y a toutes les parts et elles peuvent s'activer différemment suivant l'environnement, suivant nos périodes de vie. Et c'est normal. Reste qu'on a tous une dominante dans nos manières d'agir. Il va s'agir de notre style d'attachement principal. Bref, les attachements sécures vont être de 3 ordres aux comportements bien différents.
Donc, qu'en est-il de l'attachement anxieux?
L'anxieux, il va être préoccupé par les questions relationnelles. C'est l'enfant qui va maximiser ses demandes d'attention par des larmes, par un flot émotionnel. Il a besoin de réconfort et de proximité. Il est difficilement consolable. Il explore moins parce qu'il passe beaucoup de temps là-dessus, donc il n'est pas très autonome. À l'âge adulte, on arrive à des profils de dépendants affectifs qui vont chercher à être rassurés, qui vont beaucoup douter des autres. Son modèle, c'est de minimiser le positif et de maximiser le négatif.
C'est comme quand un enfant rentre de l'école et qu'il y a un vrai moulin à paroles et ne ressort que les événements négatifs de sa journée pour évacuer son stress, par exemple.
C'est ça. Alors que l'évitant, lui, il va choisir une stratégie complètement inverse. Il va se déconnecter de ses émotions et de ses ressentis. Il va rationaliser. Il va rester à distance des relations. On va le croire très autonome. Pour autant, les émotions, elles seront bien là, donc ça va faire effet cocotte-minute, grosse colère ou maladie. Ils n'ont pas appris à accueillir les émotions. Comme si leur figure d'attachement était particulièrement froide. Au contraire de l'anxieux, qui va s'accorder peu de valeur et qui va s'en remettre aux autres, qui en ont beaucoup plus que lui, l'évitant, il va se donner sa valeur et il va en accorder bien peu aux autres.
C'est un peu comme le gars qui va vouloir se débrouiller tout seul pour transporter son canapé sans demander l'aide de personne, quitte à se casser le dos.
Eh bien, l'exemple est parfait. Ce découpage est intéressant en travaillant avec des couples. On remarque que le plus souvent, il s'agit d'un anxieux et d'un évitant. C'est une autoroute de croissance personnelle. L'évitant doit faire un pas vers l'autre et oser la relation, quand l'anxieux doit apprendre à gagner en autonomie. Un couple anxieux-anxieux, là, c'est particulièrement intense, parce que quand ça va bien, waouh, c'est très intense. Mais quand ça va mal, ça casse des assiettes. La fusion est assez dangereuse. Et un couple évitant-évitant, ben, va peu se croiser finalement. Hein. Ils sont colocs.
Très bien. Et qu'en est-il de l'attachement désorganisé ?
Alors, ce dernier style d'attachement, c'est le plus rare à s'exprimer quand même. Hein. Il y a le facteur résilience, la personnalité, d'autres éléments qui vont rentrer en jeu. Il est la conséquence de maltraitance dans l'enfance. C'est le chaos avec une alternance de comportements anxieux et évitants d'une minute à l'autre. Ces comportements sont très imprévisibles. Ils veulent du réconfort tout en refusant de l'aide. Donc, on va assister à des crises. Bien sûr, il y a des degrés dans ces comportements désorganisés. Des îlots de désorganisation comme ça, ça peut arriver à chacun d'entre nous hein, lors de gros événements, en cas de divorce, accident, maladie. Mais quand c'est bien installé, on va aller jusqu'aux troubles de la personnalité.
Donc, par exemple, d'îlots de désorganisation, c'est quand une personne est vraiment au fond du gouffre, qu'elle vit un événement difficile comme une séparation, et elle va demander de l'aide à un ami pour pouvoir lui raconter ses déboires, se plaindre, pleurer. Mais quand cet ami arrive et qu'il se met à disposition, il se fait rejeter.
Ouais, ça peut être un exemple d'îlot de désorganisation. Et donc, face à ce type de comportement, on peut être un peu dépassé et pas savoir comment se positionner.
On ne sait plus sur quel pied danser.
Exactement. Donc voilà, on vous a fait un petit peu l'état des lieux des troubles de l'attachement qui peuvent s'activer dans toute relation quand on est sous stress. Alors voir la crotte de chien, c'est déjà pouvoir éviter de marcher dedans. Hein. Pardonnez ma métaphore qui n'est pas des plus classes, hein, mais qui a le mérite de marquer les esprits. Bien sûr, sous stress, on est bien en peine de pouvoir agir autrement qu'en mode automatique. De l'importance d'aller se faire aider pour acquérir de nouveaux automatismes, en fait.
Dans le cadre du travail social, on va interroger ce qu'on appelait jusque-là la bonne distance. Aujourd'hui, on l'appelle juste proximité, pour ajuster la posture du travailleur social dans sa relation à celui ou celle qui l'accompagne.
La question, elle va donc être: comment proposer une expérience relationnelle correctrice à ces enfants et adultes abîmés, tout en prenant en compte notre propre système d'attachement qui peut être lui aussi réactivé. L'importance de la qualité de la relation entre le travailleur social et la personne qui l'accompagne, elle est bien connue, elle est reconnue hein, dans le monde de la relation d'aide. Mais on ignore parfois comment faire pour développer et nourrir cette fameuse alliance éducative. Surtout face à des individus dits difficiles qui vont nous confronter dans nos propres schémas, et qui nous font vivre alors un sentiment d'impuissance et d'inefficacité. Comment mieux comprendre nos propres réactions et celles de nos jeunes face au défi d'un suivi éducatif ? Et surtout, comment faire pour créer et approfondir ce lien qui est au cœur du processus de changement ? On espère ici vous avoir donné des éléments de réflexion. La confusion qu'on va retrouver sur ce sujet, c'est celle qui mêle amour et attachement. C'est vrai que le plus souvent, on aime les personnes auxquelles on est attaché, mais ça répond à deux besoins différents. L'amour, c'est le besoin de se sentir aimé, reconnu dans notre valeur, être vu. L'attachement, ça répond plutôt au besoin d'avoir dans sa vie des personnes ressources vers qui se tourner en cas de stress. On peut avoir des collègues de boulot qui peuvent être nos personnes ressources sans pour autant les aimer d'amour. Comme on peut avoir des parents qui aiment leurs enfants sans pour autant être en capacité de répondre aux besoins d'attachement. Donc c'est OK pour un travailleur social de répondre aux besoins d'attachement sans pour autant sortir de sa posture pro. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement répondre aux besoins d'attachement quand on est un soignant ou un travailleur social ? Dans le cadre de mon autre casquette pro de thérapeute, je me suis formée à l'alliance thérapeutique basée sur l'attachement. Il s'agit d'oser faire des révélations de soi pour défaire la solitude. T'avais un exemple à nous partager là-dessus ?
Oui, j'ai vu un spectacle dans lequel un éducateur et un jeune racontent, en dansant, l'aventure de l'accompagnement. Dans cette chorégraphie, Tantôt, il se rapprochait, puis se rejetait, se mettait en colère, s'effondrait, se relevait. Ça illustre parfaitement la bataille que l'éducateur a dû mener contre sa hiérarchie pour conserver le lien particulier avec ce jeune en souffrance. Et c'est ce qui lui a permis à ce jeune de s'en sortir.
Ah, clairement, les assises de la protection de l'enfance de l'année dernière. Et pour faire alliance, clairement, il y a les mots qu'on va dire. Notre corps aussi, qui va se positionner pour accueillir. Une main sur l'épaule, un mimétisme de posture. Dans la relation d'aide, pour faire alliance, on s'engage tête, cœur, corps. Il ne s'agit plus de faire fi du corps, du cœur non plus. De l'importance d'aller à la rencontre de soi avant d'aller à la rencontre de l'autre pour mettre de la clarté sur ce qui s'active dans la relation, quelle qu'elle soit. Alors oui, on peut faire un câlin ? C'est tout le sujet des Assises nationales, d'ailleurs, de la protection de l'enfance de cette année. Hein. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais le thème, cette année, c'est les liens d'attachement, effectivement.
C'est la fin de cette émission Socialement Vôtre, proposée par l'ENSEIS, Centre de formation du social à Bourg-en-Bresse. Je remercie Guillemette Lepelletier d'avoir animé cette chronique sur l'importance de s'attacher pour être heureux. N'oubliez pas qu'on se retrouve le deuxième vendredi de chaque mois et en podcast sur radio-b.fr. À bientôt. Socialement Vôtre, votre chronique du travail social dans l'Ain, proposée par l'ENSEIS.